Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous, nous sommes à Nantes qui accueille ce week-end les Géopolitiques de Nantes à l'initiative conjointe de la municipalité et de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Regard sur le Brésil de Bolsonaro 10 mois après sa prise de fonction à la tête du géant latino-américain. Jair Bolsonaro absent cette semaine du sommet Action Climat où il fut question de l'Amazonie avec cette annonce de 500 millions de dollars d'aide supplémentaire pour la forêt amazonienne aux 2/3 brésilienne et les autres forêts tropicales. Mais présent à New York, pour, dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, dénoncer l'attitude coloniale de certains pays et défendre la souveraineté du Brésil sur l'Amazonie. Le président brésilien se dit en guerre, en croisade contre le marxisme culturel, la diabolisation de tous ceux qui contestent sa conception unilatérale, libérale, productiviste, extractiviste et évangélique de la démocratie. Analyse avec nos invités. Maud Chirio, maître de conférence à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, spécialiste de l'histoire contemporaine du Brésil et plus particulièrement de la dictature militaire des années 1964-1985. Bonjour.
Bonjour.
Guillaume Long, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Équateur, chercheur associé à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
Thomas Pitzer, président d'Aqua Verde, association créée en 2002 pour soutenir l'action des peuples indigènes amazoniens dans leurs actions de protection de la forêt encore sur pied. L'association travaille avec plusieurs indigènes de l'Amazonie brésilienne. Bonjour.
Bonjour.
Et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
Les élections présidentielles brésiliennes, elles ont révélé à l'automne 2018 l'écho qu'a en Amérique latine le malaise généralisé de la démocratie représentative. La large victoire de Jair Bolsonaro le 28 octobre 2018 a suscité stupeur et perplexité. Comment un candidat faisant ouvertement l'apologie des dictatures militaires dans son pays et ailleurs a-t-il pu l'emporter aussi facilement ? Après 10 mois de gouvernement, que vous inspire à chacun la présidence de Jair Bolsonaro ? Christophe Ventura.
Ces premiers mois de la présidence de Jair Bolsonaro confirment en fait et dessinent avec plus de précision les contours du projet politique qu'incarne ce dirigeant, ce président brésilien, qu'il ne faut pas réduire à sa seule personne, mais dont il faut comprendre qu'il est, disons, le porte-voix d'intérêt d'un certain secteur de la société brésilienne qui sont désormais au pouvoir et qu'on voit aujourd'hui s'exprimer à travers les questions environnementales, qu'on voit s'exprimer à travers la question sécuritaire, etc., etc. Le bilan, c'est qu'on a un Jair Bolsonaro qui commence à mettre en place les politiques de son programme, que moi je qualifie de libéral autoritaire, qui correspond à la fois à une déstructuration des politiques publiques qui ont été mises en place les 15 années précédentes, un retrait organisé, disons, de l'État, de la sphère de l'économie, une privatisation accrue de l'économie, etc. On en reparlera peut-être. Et puis face à ça, et pour mettre en place ça, une capacité d'autoritarisme lorsqu'il y a des résistances, en fait, hein, tout simplement de la société. Donc ce programme en place, mais qui est quand même contrarié à mon sens. On a vu que la réforme de la retraite, qui était l'exigence numéro un des secteurs économiques et financiers brésiliens et surtout internationaux, n'a pas finalement la couleur que Bolsonaro avait promis. Et puis on voit aussi des dissensions autour de Bolsonaro qui va avoir du mal, et ce sera un de ses défis, finalement, à maintenir cette coalition d'intérêts un peu hétéroclite autour de lui, parce qu'il y a des dissensions dans les secteurs militaires et dissensions dans les secteurs politiques autour de certaines de ces décisions aujourd'hui.
Alors on reviendra bien sûr sur ces dissensions, notamment militaires que vous évoquez. Maud Chirio, moi je me tourne vers vous. Qu'est-ce que l'on peut dire finalement de ces 15 dernières années au Brésil ? Quelles étaient ces 15 dernières années, la part fragile du Brésil qui a pu conduire à cette situation avec une montée de l'extrême droite et un président tel que Jair Bolsonaro à la tête de ce pays.
Alors, les 15 dernières années, donc dont 13 années d'un gouvernement de centre-gauche, ont été des années qui ont changé les conditions de vie de dizaines de millions de Brésiliens, mais à de nombreux points de vue, la démocratie et la société brésilienne n'ont pas été profondément réformées par le pouvoir de centre-gauche, qui n'a pas osé réformer les institutions politiques, réformer le système de financement des partis, réformer les modes de scrutin, également mener des réformes qui pouvaient être profondément redistributives positive et changer plus profondément cette société extraordinairement inégalitaire, par exemple pas de réforme fiscale, qui est vraiment très peu redistributive au Brésil. Donc c'est à la fois des gouvernements qui ont donné l'espoir à des Brésiliens et qui ont donné l'image à la communauté internationale que le Brésil était en train de changer, que le Brésil avait une démocratie mature, que le Brésil était en train de sortir de cette situation de pays issu de l'esclavage, ségrégué, raciste, inégalitaire, qu'il était en train véritablement d'être réformé. Et une partie des Brésiliens et nous-mêmes, nous nous sommes laissés aveugler par un gouvernement qui avait tous les oripeaux d'un gouvernement qui changeait et faisait progresser le pays, alors que tout un tas de structures profondes de la société restaient inchangées. Et ce qui se passe actuellement, avec une radicalité qui étonne et qu'on ne comprend pas encore véritablement tant elle tranche avec l'image qu'on avait précédemment du pays, c'est une poussée à l'extrême de tout un tas de structures de la société brésilienne, d'une société où une partie de la population est au service de l'autre, d'une société où il y a 65 000 morts de morts violentes par an dans les périphéries urbaines, sans que cela ne mette en cause l'idée qu'il s'agit d'une démocratie et que l'état de droit règne aussi dans ces quartiers. Là. Et tout en fait, ces éléments-là se sont retrouvés assumés comme un projet politique par le gouvernement en place, qui assume le fait d'avoir une société du chacun à sa place, une société où le modèle de l'homme propriétaire blanc est le modèle qui doit devenir le modèle du commun. Et je pense que le lien qu'on peut établir entre les 15 années précédentes, où partout ici, hein, nous avons vu le Brésil comme le pays du futur qui enfin arrivait à sa destinée à laquelle il était promis, nous a aveuglés sur le pays qui restait, le pays des profondeurs, qui est en train de s'épanouir dans le gouvernement d'extrême droite de Bolsonaro.
Alors Guillaume Long, je me tourne vers vous. Vous partagez cette notion d'aveuglement sur le Brésil qu'évoquait à l'instant Maud Chériot?
Oui, je partage les propos de Maud. Je pense qu'il y avait en effet un gouvernement, une démocratie qui s'installait petit à petit, mais qui cachait énormément de choses sous-jacentes. Et c'est vrai que cette surprise de Bolsonaro est une surprise amère qui est très triste pour la démocratie brésilienne. C'est aussi un constat très triste que nous devons faire sur les élites brésiliennes, je dirais les élites latino-américaines, puisque en fait, les élites qui avaient pourtant décidé de jouer ce jeu de la démocratie, hein, à partir du milieu des années 80, 85, finalement, ceux qui se sont installés même dans une sorte de bipartisme, hein, d'une certaine manière, petit à petit, alors il y avait d'autres arbitres de la politique, mais entre un parti de centre-droit et un parti de centre-gauche, eh bien, on a vu les élites ne pas être à la hauteur un peu de leur démocratie et de choisir, parfois de façon active, parfois en se pinçant un peu le nez, de choisir la voie d'un coup d'État, je dirais, sur la longue durée, puisqu'il a commencé avec l'impeachment de Dilma, et puis après avec la prison de Lula, et puis finalement le choix des grands médias, des grandes corporations et des élites de Bolsonaro, en l'absence de celui qui aurait gagné, Lula, pour justement tourner la page de cette gauche. Donc en fait, ce choix des élites, c'est le choix de... C'est des propos forts, mais c'est le choix de la barbarie face à la démocratie. C'est le choix du néolibéralisme, même si politiquement, c'est un gouvernement antilibéral. Donc on choisit le néolibéralisme économique, mais on tourne la page sur cette histoire qui était quand même importante au Brésil, qui a en plus une longue tradition juridique et puis aussi internationale, multilatéraliste, etc. On va sûrement en reparler, de libéralisme politique d'une certaine manière, c'est-à-dire de démocratie libérale politique. Et je trouve que c'est très triste que les élites brésiliennes, alors évidemment il y a toujours des exceptions, n'aient pas été à la hauteur de leur démocratie et aient choisi de privilégier d'une certaine manière ces réformes néolibérales, même si elles ont un contexte clairement autoritaire. Alors on va voir maintenant avec la dégringolade dans les sondages quand même de Bolsonaro ces derniers mois, si les élites, parce qu'il y a une grande polarisation comme disait Christophe au Brésil en ce moment, mais si les élites elles-mêmes ne vont pas commencer à se diviser, il ne va pas y avoir une polarisation au sein même des élites.
Choix de la barbarie face à la démocratie, c'est vrai que c'est assez fort comme propos, Guillaume Long, mais c'est intéressant. Peut-être on y reviendra. Je me tourne vers vous, Thomas Pitzer, pour parler environnement. On assiste à une sorte de fin du leadership du Brésil dans les négociations globales sur le climat. Ricardo Salles, qui est ministre de l'environnement brésilien, était était cette semaine à Paris. Il a dénoncé la désinformation sur la responsabilité du gouvernement Bolsonaro dans l'accélération de la déforestation aujourd'hui en Amazonie. Quel regard portez-vous sur la politique environnementale et en ce qui concerne les peuples indigènes aujourd'hui de Jair Bolsonaro au Brésil, et peut-être pour commencer, quelle solution pour remédier aux incendies?
Alors oui, c'est une vraie catastrophe qui se passe du point de vue des peuples indigènes d'Amazonie. Il faut savoir que la forêt amazonienne, qui fait à peu près 14 fois la France, plus de la moitié s'en trouve au Brésil. Et de cette surface de forêt amazonienne, eh bien les Indiens en ont à peu près 30%. Donc c'est une surface absolument énorme qu'ils essayent, souvent au péril de leur vie, de leur communauté, de leur subsistance, de protéger. Ils sont sans arrêt menacés, c'est pas nouveau. La corruption dans le passé a fait que c'était toujours comme ça, mais ça s'est beaucoup accéléré cette année. On a notamment pu constater environ 300% d'augmentation des zones déforestées légalement et surtout illégalement dans la forêt amazonienne au Brésil. Je pense que tout le monde ici a pu suivre cet été les réactions au niveau international sur le fait que même ces feux se voient maintenant sur tous les internets, etc. Et c'est une réalité et cela touche particulièrement les peuples amazoniens qui essayent de lutter contre le feu. Avec notre association, on est en train de mettre sur pied des projets pour les soutenir, former d'urgence des pompiers indigènes qui peuvent aller créer des coupe-feux dans des zones de forêt qui sont très largement atteintes et des actions comme ça. Donc on est en train de mettre en place ce qu'il est urgent de poursuivre.
La notion de terres indigènes, elle est menacée aujourd'hui, Thomas Pitzer. Et pour aller au-delà, quels sont finalement les enjeux liés à l'Amazonie ?
Alors, les terres indigènes, ce sont des réserves, on pourrait dire, qui ont été réallouées par une démarcation depuis le milieu du XXe siècle déjà, et où les Indiens ont pu récupérer l'usufruit de leur territoire, ou de certaines parties de leur territoire, et qu'ils essayent de défendre bec et ongle maintenant contre les déforesteurs illégaux et contre l'extraction minière illégale qui a lieu aussi. Un bon exemple, c'est le peuple Surui dans l'état du Rondônia, qui a 250 000 hectares de forêt, encore à 95% vierge. C'est un peu, c'est-à-dire la grandeur du Grand Paris. Ils sont 1200 personnes pour essayer de protéger ces territoires. Et ils essayent vraiment de les protéger avec différentes actions, qu'elles soient au niveau international, qu'elles soient au niveau simplement de la reforestation, de la gestion de ces territoires.
Alors, on connaît le lien entre le président brésilien et le président américain. J'ai cette question, est-ce qu'il y aura, peu importe l'échéance, mais retrait de l'accord sur le climat opéré par le Brésil ? Christophe Ventura.
On peut pas répondre aujourd'hui avec certitude. À l'heure où on se parle, Bolsonaro reste dans l'accord de Paris, mais ça lui coûte pas très cher, si je puis dire, pour plusieurs raisons. D'abord parce que être dans l'accord de Paris, c'est en reconnaître les objectifs, c'est-à-dire on reconnaît le problème climatique et le fait de devoir rester sous la barre des 1,5 degrés, etc. Mais ça ne dit rien et ça ne contraint personne dans les politiques qu'il faut mettre en place pour atteindre ces objectifs, puisque tout est basé sur une logique de contribution nationale. Donc Monsieur Bolsonaro peut dire oui, je souscris à l'objectif. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, nous, le Brésil, on est parmi les meilleurs au monde déjà à faire tant de choses pour la préservation des forêts, etc. Il a rappelé lors de son discours à la tribune de l'ONU fin septembre que le Brésil avait à peine 8% de la surface qui était agricole quand l'Allemagne et la France en avaient plus de 50%. Donc il a une défense là-dessus au bulldozer, si j'ose dire. Et il considère donc qu'il fait déjà beaucoup. Et l'accord de Paris, comme l'accord Mercosur-Union européenne, ne disent pas ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs et surtout ne prévoient pas non plus des sanctions lorsque vous n'y arrivez pas à ces objectifs. Donc on est dans une espèce de c'est aussi le miroir des limites finalement de ces accords-là. Et aujourd'hui, quelqu'un comme Bolsonaro peut naviguer tout à fait paisiblement dans les eaux, disons, grises de ces accords.
Alors, puisque vous parliez de l'accord Union européenne-Mercosur, Mochirio, est-ce qu'on peut... cet accord n'est pas signé encore par tous les pays concernés. Est-ce que ça peut être une puissance de levier pour contraindre finalement le Brésil à rester dans les clous, notamment en matière environnementale, que peut-être suspendre ou ne pas signer cet accord Union européenne-Mercosur ?
C'est une possibilité. Ce qui est sûr, c'est que vu l'éloignement idéologique du projet de Jair Bolsonaro par rapport à un certain nombre de grands objectifs mondiaux promus par les Nations Unies, que ce soit sur les questions d'environnement, mais aussi les questions de droits humains, qui sont absolument fondamentales au Brésil et qui sont rejetées par le pouvoir comme quelque chose qui ne doit pas être considéré comme un objectif démocratique, il me semble que c'est un pouvoir qu'il faut arrêter d'essayer de convaincre par des pressions politiques et pour lequel le seul levier sont des pressions économiques. C'est-à-dire la seule manière de faire évoluer sensiblement ce que Bolsonaro va faire du Brésil, à quel point il va détruire l'Amazonie, à quel point il va détruire les conditions de vie des populations indigènes, à quel point il va accroître l'extermination des populations périphériques. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du gouverneur de l'État de Rio, hein, qui s'appelle Witzel, et qui considère que la gestion des favelas et des périphéries doit se faire par hélicoptère avec des armes automatiques, ce à quoi lui-même contribue. Donc régulièrement, il monte dans un hélicoptère et il mitraille les zones qui sont considérées comme les zones qui hébergent des trafiquants. Ça, c'est une toute petite lorgnette de ce que représente le pouvoir brésilien. Et donc, c'est un pouvoir avec lequel on peut peu dialoguer et qui ne peut gouverner actuellement sans que le régime ait fondamentalement évolué qu'en ayant des alliances et des négociations avec des groupes parlementaires qui sont liés à des lobbies économiques. Donc, je pense que le seul levier au-delà de l'Union européenne, c'est le fait de faire comprendre à un certain nombre de lobbies financiers et économiques que les mesures prévues par le gouvernement Bolsonaro ne sont pas les plus profitables. Et donc, évidemment, l'accord, qui était déjà un petit peu fragilisé hein, avant de l'envisager comme un levier, doit être considéré comme un outil pour faire évoluer, si tant est que ce soit possible, la gestion de ces ressources naturelles, mais au-delà hein, de l'ordre démocratique au Brésil, à mes yeux. Je ne sais pas si c'est l'objectif, néanmoins, des autorités européennes actuellement.
Alors, Thomas Pitzer, j'aimerais que vous réagissiez à ce que vient de dire peut-être Maud Chirio. Il y a cette polémique autour de l'Amazonie avec ingérence, pas ingérence. Est-ce que et en quoi l'Amazonie est-elle ou pas l'affaire de tous ?
Déjà, le gouvernement brésilien a toujours mis en avant cette question d'ingérence internationale. On parlait d'internationaliser l'Amazonie il y a 20 ans, des choses comme ça, qui a fait que renforcer la capacité des forces militaires brésiliennes qui ont pris cet argument pour se renforcer. Maintenant, depuis cette époque, eh bien, on voit vraiment que, par exemple, pour les indigènes aujourd'hui, ils me l'ont dit encore cet été, j'ai passé 2 mois chez eux, on voit que la seule arme est l'arme économique, parce que l'arme politique que chez eux ne marche pas. Tous les ponts sont coupés entre toutes les associations indigènes, tous les grands leaders qui essaient de protéger la forêt ont été coupés avec le gouvernement. Ils n'ont plus d'interlocuteurs. La FUNAI, qui était le ministère des affaires indigènes, on a essayé de le réduire complètement. Il n'a plus beaucoup de pouvoir. Il en a repris un tout petit peu ces derniers mois, mais c'est très faible. Donc on voit toutes ces tentatives et on pense aussi que du côté des indigènes, on pense vraiment qu'il faut des sanctions économiques. D'autant que la forêt amazonienne, elle est déforestée. Pourquoi ? Pour l'agriculture du soja, pour l'élevage bovin, qui finalement va revenir aussi chez nous. Donc on a aussi une partie à jouer
chez
là-dedans.
Chez nous en Europe,
chez nous
que
en Europe,
dire.
En Occident en général.
Arme économique, Guillaume Long, très rapidement pour conclure cette première partie d'émission.
Oui, je pense qu'on ne va pas voir de sitôt un accord qui rentre en vigueur entre l'Union européenne et le Mercosur. Il y a plusieurs éléments. Ce n'est pas seulement une excentricité de Bolsonaro. Hein, le climato-sceptisme est vraiment propre de son administration. Si on regarde les propos de son ministre des Affaires étrangères, l'idéologie du climatisme, il l'appelle. Il y a vraiment un alignement sur les propos de Trump, de tout le gouvernement. Puis, il y a aussi les élections en Argentine, qui vont probablement être gagnés par Alberto Fernandez, de centre-gauche, qui a quand même des critiques sur l'accord aussi, donc ça pourrait changer un petit peu la donne. Je pense aussi qu'en Europe, on parle beaucoup de ce qui se passe au Brésil, mais en Europe, il y a plusieurs secteurs, notamment de l'agroalimentaire, qui sont nerveux avec cet accord, donc je ne sais pas si c'était un prétexte, mais peut-être que le fait que le Brésil soit ce qu'il soit aujourd'hui, ça arrange certaines personnes. Et puis, simplement, finalement, il y a aussi un paradoxe, c'est que cet accord, c'est que finalement, c'est un énorme accord céréalier, c'est un énorme accord de production et d'exportation de produits agricoles et qui pourrait lui-même aussi faire du mal à l'environnement au Brésil, pas seulement en Amazonie, mais sur surtout dans les États centraux du Brésil, Tocantins, Piauí, Goiás, etc., qui sont les États de la savane, mais qui sont aussi écologiquement très sensibles.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Guillaume Long, Thomas Pitzer, Maud Chirio et Christophe Ventura après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique depuis Nantes, où se tiennent ce week-end les géopolitiques de Nantes à l'initiative conjointe de la municipalité et de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Regard sur le Brésil de Jair Bolsonaro, 10 mois après sa prise de fonction à la tête du géant latino-américain. Nous retrouvons nos invités. Maud Chirio, maître de conférence à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, spécialiste de l'histoire contemporaine du Brésil et plus particulièrement de la dictature militaire des années 1964-1985. Guillaume Long, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Équateur et chercheur associé à l'IRIS. Thomas Pitzer, président d'Aquaverde, association créée en 2002 pour soutenir l'action des peuples indigènes amazoniens dans leurs actions de protection de la forêt encore sur pied. Et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. J'aimerais qu'on parle de la question des militaires avec vous, Maud Chirio. Le président brésilien a demandé le 31 mars l'organisation dans les casernes du Brésil, d'une journée de commémoration pour le 55e anniversaire du coup d'État qui a plongé le Brésil dans la dictature. Comment cette mesure a-t-elle été prise parmi les militaires? Les militaires qui sont surreprésentés à la fois au gouvernement brésilien et au Parlement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur...
Une partie des états-majors militaires a été un petit peu frileuse à l'égard de cette commémoration, malgré le fait que le discours de réhabilitation de la dictature et le discours considérant que le présent doit poursuivre l'œuvre des militaires sous la dictature, c'est-à-dire le fait de nettoyer le pays de la corruption et de lutter contre le communisme qui continuerait d'être la principale force politique dans le monde, dans les institutions internationales, dans les ONG, selon Bolsonaro, même si ça peut sembler extrêmement étonnant. Actuellement, le progressisme est en fait le nouveau visage du communisme, et le progressisme, c'est l'acceptation des orientations sexuelles différenciées, le féminisme, les solidarités à l'égard des migrants de par le monde, ce qu'il appelle le climatisme, c'est-à-dire le discours sur les questions environnementales et le réchauffement climatique. Donc il y a vraiment une continuité entre Bolsonaro, le discours du clan Bolsonaro et le discours qui était celui des militaires. Et le fait que le gouvernement de Bolsonaro soit non pas un gouvernement militaire, mais un gouvernement militarisé, avec un nombre de ministres militaires qui est plus élevé ou égal à ce qui a été le cas pendant la dictature, est le résultat d'un processus qui est un véritable processus de militarisation de la scène politique brésilienne et de glissement à l'extrême droite des forces armées brésiliennes. Et ce glissement à l'extrême droite, il s'est déroulé depuis 4-5 ans en donnant une audience absolument considérable au sein des forces armées à des groupes d'extrême droite qui étaient jusqu'alors minoritaires mais qui n'avaient jamais disparu. Qui n'avait jamais disparu parce que la transition post-dictatoriale au Brésil s'est faite de manière extrêmement incomplète. Il n'y a jamais eu de procès au Brésil comme en Argentine, il n'y a jamais eu de condamnation, il n'y a jamais eu de véritable grande pédagogie publique condamnant la dictature, ce qui a permis à des groupes d'extrême droite nostalgiques de la dictature de demeurer au sein des forces armées. Et ces groupes d'extrême droite, ils ont été complètement potentialisés à partir de 2014 par un contexte de crise démocratique, un contexte de crise économique et par la Commission nationale de la vérité, qui a été mise en place entre 2012 et 2014, qui a tenté d'établir pour la première fois un discours public de condamnation de la dictature, sans procès, mais de condamnation à destination de l'opinion de ce qui avait été commis pendant la dictature. Et ce projet, cette réalisation, la Commission vérité, a suscité un ressentiment absolument considérable au sein des forces armées, un ressentiment contre le dispositif et contre le pouvoir de Dilma Rousseff qu'il avait mis en œuvre, et un pouvoir qui était à ce moment-là extrêmement fragilisé par les enquêtes anticorruption et par l'offensive de droite qui allait déboucher sur l'impeachment de Dilma Rousseff. Donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement central dans l'administration Bolsonaro qui ne fait pas prévoir un régime militaire, mais qui rend le pouvoir de Bolsonaro à ses cousins d'un régime militaire, anticommuniste et répressif.
Alors pour aller plus loin, Maud Chirio, finalement ces commissions de la vérité, elles ont fonctionné ailleurs en Amérique latine. Pourquoi ça n'a pas fonctionné au Brésil ?
Alors, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une commission qui a été mise en place après la fin de la dictature, après 30 ans de nouvelle république. Donc, à un moment où l'opinion publique était assez peu réceptive, avait
elle, en partie tourné la page, le gouvernement se trouvant relativement isolé dans son projet d'affronter les responsabilités des militaires et des policiers qui avaient commis des crimes d'État. Donc il y a cet élément-là, c'est un caractère trop tardif qui s'instaure dans un État qui n'a pas connu au moment du rétablissement de la démocratie une quelconque modification à la fois des commandements, mais aussi des programmes scolaires. Quand on regarde les programmes d'entraînement des militaires, des écoles militaires, on continue d'avoir un discours qui valorise l'expérience de la dictature et la lutte contre les opposants sous la dictature. Donc on est dans un système d'une commission vérité tardive, et là c'est complètement circonstanciel, qui tombe au moment de la plus grande crise démocratique et économique de la Nouvelle République, ce qui a fait que toute une partie, et des militaires mais aussi de l'opinion, a considéré que ce discours de la commission qui défend les droits humains, qui défend le droit à la résistance, qui condamne la violence d'État, a été considéré comme le discours de la gauche, du PT, de ce parti discrédité et considéré comme corrompu par ceux qui les accusaient. Et donc c'était plus du tout la construction d'un discours collectif, c'était la gauche qui profite du fait d'être au pouvoir pour tenter de convaincre les gens que la dictature avait été condamnable.
PT pour Parti des Travailleurs. Christophe Ventura et Guillaume Long, je me tourne vers vous. Peut-être un commentaire sur ce que vient de dire Maud Chirio sur la question militaire. Et on va parler un petit peu économie. Christophe Ventura, peut-être avec vous, où on voit bien une lenteur de la reprise économique après la récession historique de 2015-2016. Et puis cette politique de privatisation des grandes entreprises brésiliennes, notamment Petrobras. Quelle lecture en faire, Christophe Ventura ?
Alors, deux mots sur les militaires. Maud Chirio vise particulièrement juste lorsqu'elle évoque la question du communisme, parce que ça peut paraître un petit peu hors sol, mais ça l'est pas du tout. D'ailleurs, je vais rapporter les propos de Bolsonaro, encore une fois, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, qu'il a ouverte fin septembre. Sa première phrase a été de dire « Je viens vous présenter un Brésil nouveau, un Brésil qui est sorti des affres du socialisme ». Alors sur l'armée, pour voir un peu l'autre versant, il y a quand même des contradictions au sein des militaires, parce que c'est vrai que les secteurs d'extrême droite de l'armée sont autour de Bolsonaro. Aucun doute, juste une incision, une extrême droite un peu bizarre parce qu'elle n'est pas du tout nationaliste au sens où on pourrait l'imaginer, puisque c'est une extrême droite qui prône en fait, le retour à une vieille tradition diplomatique brésilienne qui est ce qu'on appelle l'alignement négocié, c'est-à-dire en fait de réalignement à Washington et de privilégier l'axe atlantique pour le Brésil et loin de sa diversification, de son automisation internationale. Donc, et d'ouvrir d'ailleurs l'économie, ça fait la transition avec la deuxième partie de votre question, en particulier aux entreprises américaines, puisque si je pars de l'Amazonie, par exemple, M. Bolsonaro a quand même un anti-impérialisme à géométrie variable, parce qu'il a un discours pour les Européens, puis en même temps, il a un discours de bienvenue et d'accueil, et d'ouverture même très grande, des ressources amazoniennes pour les entreprises minières américaines, puisque en fait, on verra bientôt, il est en train de préparer une négociation d'un accord avec Donald Trump, qui vise justement à ouvrir aux multinationales américaines et les compagnies minières en particulier l'accès aux ressources amazoniennes. Donc c'est ça qui est derrière Bolsonaro, plus le lobby de l'agro-business, plus des courants évangéliques et plus rallier dans un deuxième temps les secteurs économiques et financiers brésiliens, les fameuses élites dont parlait tout à l'heure Guillaume Long. C'est cet attelage qui est derrière lui et ça va avoir des contradictions. Alors sur le plan économique, Monsieur Bolsonaro connaît des problèmes puisque le Brésil connaît une croissance toussante, oui, voilà, 0,9%. Il y a encore là des prévisions qui sont revues à la baisse. Donc les notes des agences de notation internationales sont en train de revoir à la hausse les risques sur la dette brésilienne. La fameuse réforme des retraites qui était attendue comme étant ce qui allait remettre les comptes publics en excédent, c'est pas la réforme qu'il avait promis. Donc il y a ces difficultés, le chômage pointe toujours à plus de 11% de la population, l'informalité c'est quasiment un Brésilien sur deux au travail, c'est 45%, les inégalités réexplosent, la pauvreté revient. Donc en fait le bilan économique de M. Bolsonaro pour l'instant ne solutionne rien, tous les niveaux de l'économie pour faire court sont en deçà de ce qu'ils étaient avant la crise politique de 2016 et la récession brésilienne, et la difficulté pour M. Bolsonaro ça va être justement de modifier ça, parce que les politiques qu'il est en train de mettre en place, ce sont des politiques qui vont continuer en fait à couper les ressources de l'État, qui ne pourra donc pas investir, etc., etc. Donc c'est toujours le même cycle de l'austérité qui fait que l'économie ne fonctionne pas. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le voisin argentin dont le président Macri finit en piteux état avec les mêmes politiques.
Alors Guillaume Long, vous souhaitez rajouter quelque chose, et Thomas Pizza peut-être sur l'Amazonie livrée aux multinationales américaines?
Oui. Monsieur Bolsonaro lui-même dit qu'il n'y connaît rien en économie, que c'est pas ce qui l'intéresse, et en fait il a un peu délégué la réforme économique à un super ministre qui s'appelle Paulo Guedes, qui est vraiment un Chicago boy ultra néolibéral, et qui lui promet un ajustement structurel néolibéral très 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 agressif, mais qui nous prévient qu'il n'y aura pas d'amélioration de l'économie avant 2021-2022, mais qui par ailleurs explique la débâcle argentine, notamment la probable défaite du président Macri, par le fait qu'il n'aurait pas été assez vite dans ses réformes néolibérales. Donc il y a une contradiction là, puisqu'on sent bien que le Brésil va aller beaucoup plus lentement que l'Argentine dans les réformes néolibérales, pour des raisons politiques qui ont à voir avec l'équilibre du pouvoir au Parlement, mais aussi parce que, en fait, M. Bolsonaro n'est pas quelqu'un de idéologiquement pur, économiquement parlant, même si son ministre l'est, comme l'est encore Mauricio Macri. Donc, moi, je pense que, enfin, économiquement, ils ne vont pas pouvoir tourner la page si facilement. La privatisation des entreprises ne va pas forcément être aussi facile que ça. Et il va y avoir beaucoup de cafouillages, ce qui ne va pas forcément jouer en faveur du gouvernement.
Alors, Thomas Pizzer, l'Amazonie livrée aux multinationales américaines?
Le grand danger pour les territoires indigènes, c'est qu'ils regorgent de minerais en tout genre, notamment, par exemple, chez le peuple Surui, on estime que c'est une des plus grandes réserves mondiales de diamants inexploitées au monde. Donc, ils sont face à cette pression. Heureusement que dans la Constitution est inscrite depuis 1988 au Brésil les droits des peuples indigènes et de leurs terres. Ils sont protégés par ces lois. Donc M. Bolsonaro devra en fait faire des amendements à la Constitution s'il veut pouvoir livrer les terres indigènes qui sont encore protégées aujourd'hui, s'il veut pouvoir les livrer aux entreprises minières qui sont à l'affût maintenant de tous ces territoires. Donc ça va être une grande question pour les peuples indigènes, c'est de lutter contre justement ces modifications qui doivent avoir lieu au niveau de la Constitution, et il y a beaucoup de forces en présence au Brésil qui vont lutter la contre, bien sûr. Donc on a encore un espoir là-dessus. Par contre, la déforestation illégale et l'extraction minière illégale, en toute impunité, a lieu tout à fait aujourd'hui et crée de gros problèmes pour les peuples indigènes, une confrontation avec la population locale qui habite autour de chez eux, que ce soit des paysans qui veulent des terres pour l'élevage ou que ce soit des mineurs illégaux qui peuvent payer très cher l'accès à des zones minières, donc corrompre des parties des peuples indigènes, etc., qu'on peut voir. Donc, entre les menaces et la corruption, les leaders indigènes font face à de gros problèmes, même au sein de leur peuple indigène aujourd'hui.
Alors, le président brésilien, son premier voyage n'a pas été en direction de l'Argentine, comme cela se fait traditionnellement. Ça a été Washington. L'occasion donc de parler des relations entre le Brésil et les États-Unis. Washington apparaît aujourd'hui comme l'axe principal de la diplomatie de Jair Bolsonaro. Sur plusieurs sujets, le président brésilien s'aligne sur les positions de Donald Trump. Est-ce qu'on peut parler de risque de perte d'indépendance du Brésil? Quels sont les dangers et quels sont, Mucirio peut-être et Christophe Ventura, les limites de cette politique? Christophe Ventura.
Alors, ce réalignement justement sur les intérêts de Washington, qui est vraiment la boussole de Jair Bolsonaro et de ceux qui sont au cercle premier, on va dire, crée des contradictions au sein des élites brésiliennes et aussi de l'appareil militaire. Ça nous permet de continuer un peu sur ce thème-là. Pourquoi? Parce que d'une part, aujourd'hui, le premier partenaire commercial du Brésil, c'est la Chine, ce n'est plus les États-Unis. Le secteur de l'agroalimentaire, dont il faut rappeler l'emprise sur le Brésil en quelques chiffres, le secteur alimentaire, c'est un quart du PIB brésilien, c'est à peu près un tiers des emplois de tout le Brésil, hein, 30% des emplois au Brésil, environ 45% du commerce extérieur brésilien est basé sur donc cette agriculture d'exportation vers les marchés internationaux. Ce secteur-là, lui, il veut pas du tout que Bolsonaro coupe ses liens avec la Chine, puisque la Chine et le Brésil, c'est 100 milliards d'échanges par an, l'année dernière en 2018, c'est colossal. C'est-à-dire que finalement, la limite de Bolsonaro, c'est le principe de réalité, c'est-à-dire que le Brésil désormais a des liens qui sont assez irréversible avec la Chine, il ne pourra pas revenir en arrière comme il le prétend, au profit des Américains. Maintenant, il y a cette volonté, disons justement, de faire un peu le contrepoids chinois pour les Américains dans la région. C'est ça que porte Bolsonaro. C'est ce qu'il va faire aussi. Et donc, on va rentrer dans des tensions. D'ailleurs, il y a un événement qui serait intéressant à suivre, qui va se passer mi-novembre, puisque il se trouve que le hasard des choses fait que c'est à Brasilia que va se tenir le prochain sommet des BRICS. et c'est le 13 et 14 novembre. Donc M. Bolsonaro va être l'hôte de Xi Jinping, de M. Poutine, etc., etc., avec les États-Unis à qui il fait, disons, la cour en permanence. Et ça va être très difficile pour lui de trouver la juste position pour M. Bolsonaro.
Monteiro.
Et ce qui est intéressant, justement, je voudrais rebondir sur ce que dit Christophe sur le principe de réalité, c'est qu'il y a une tension constante dans le discours de Bolsonaro entre une ligne idéologique, dans ce cas-là la ligne de l'alignement sur les États-Unis, et le fait qu'il a à construire un pouvoir qui doit être constamment négocié parce que c'est une figure politique nouvelle qui n'existe que parce que à un moment assez tardivement, des élites économiques et des groupes d'intérêt se sont reportés sur sa candidature, et donc Bolsonaro doit satisfaire des groupes d'intérêt extrêmement divers, et donc il a une exigence de pragmatisme, en particulier sur les questions économiques. Et le choix de renoncer à du multilatéralisme diplomatique mais aussi économique est en contradiction avec tout un tas d'intérêts avec lesquels il a besoin de négocier, y compris pour pouvoir obtenir des accords sur d'autres questions, sur des questions de politique intérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir bolsonariste, c'est une poliarchie avec énormément de groupes qui prétendent à une certaine hégémonie, les militaires, les évangélistes, un certain nombre de groupes financiers, et qui sont en conflit constant sans qu'on sache exactement qui va l'emporter et qui peut devenir la base politique principale du bolsonarisme, en sachant que la capacité de l'exécutif à négocier et à systématiquement faire les choix économiques, diplomatiques qui vont contenter ces groupes qui constitueraient sa base politique est très limitée, parce que même si Bolsonaro lui-même a été pendant presque 30 ans au sein du Parlement, c'est pas une figure qui sait négocier.
Alors, si on doit revenir sur toutes ces contradictions que vous évoquiez à l'instant, auquel, on l'a dit, s'ajoute une conjoncture économique assez peu favorable, c'est peut-être un euphémisme. En guise de conclusion et très rapidement, Bolsonaro peut-il tenir longtemps ? Guillaume Long ?
Alors ça, c'est une question difficile à répondre. Je pense qu'il y a des tensions de plus en plus grandes au Brésil, notamment, je parlais au début, au sein des élites. Je pense qu'il y aura des élites qui vont continuer à l'appuyer de façon agressive, notamment le lobby BBB au Brésil, les munitions, la Bible et puis le bétail. Donc le lobby de l'agroalimentaire, et ça va continuer à le soutenir, et c'est un lobby bien important. Il a le soutien aussi des évangélistes, mais on sent quand même dans les sondages qu'il y a une baisse de popularité. Et puis, il y a des élites quand même, on revient là à notre discussion sur le multilatéralisme, qui sentent cette perte de légitimité, de prestige de ce Brésil qu'ils ont quand même vécu pendant l'ère Lula et Dilma, mais aussi avant, depuis la démocratisation, même avant ça, enfin ça remonte, il y a une histoire importante pour remettre ça dans termes géopolitiques. Il y a une tradition multilatéraliste brésilienne qui est importante. Donc par exemple, le ministère des Affaires étrangères du Brésil, Itamaraty, doit avoir assez honte de ce qui se passe en ce moment en termes de leur politique extérieure, et ça, ce sont évidemment aussi des élites. Un Brésil qui tourne le dos à l'Amérique latine, c'est problématique aussi. Un Brésil qui tourne le dos à ce rôle quand même historique que le Brésil a joué pendant la dictature militaire, mais aussi pendant la démocratie, qui était de représenter un peu le sud global. Dans les années 70, c'était le tiers-mondisme. Après, bon, c'était devenu une idéologie plus globalisante, mais c'était quand même cette vocation multilatéraliste que le Brésil perd. Bon, alors est-ce que tout ça, c'est assez important pour pouvoir changer la donne à l'intérieur du Brésil ? Est-ce que la société civile brésilienne est assez mobilisée ? Évidemment, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs d'intimidation et d'autoritarisme, on en a déjà parlé, le fait que Lula soit en prison, mais il y a un changement aussi de l'équilibre géopolitique en Amérique latine qui est important, avec les élections en Argentine qui vont se solder par la victoire d'un candidat de centre-gauche. S'il y a une alliance entre le Mexique et l'Argentine, ça va rééquilibrer un peu les choses entre gauche et droite en Amérique latine. Ça peut être un obstacle important aux ambitions du président Bolsonaro.
En tout cas, donc, fragilisation de la position du Brésil sur la scène internationale, là où le pays s'était finalement hissé ces dernières années comme partenaire émergent et fiable. C'est la fin de géopolitique. Merci à nos invités. Guillaume Long, je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères de l'Équateur et chercheur associé à l'IRIS. Mochirio, maître de conférence à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, spécialiste de l'histoire contemporaine du Brésil. Thomas Pitzer, président d'AquaVerde, et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS. En complément de ce débat sur le Brésil, je signale l'exposition présentée par le musée historique de Nantes, le château des Ducs de Bretagne actuellement, exposition ethnographique et historique autour de l'Amazonie et qui permet de comprendre les changements induits par le président brésilien. Géopolitique était signée Marie-France Chatin et Marc Fichet à Nantes, Véronique Durand et Nathalie Laporte à Paris. Samedi prochain, nous parlerons des batailles technologiques qui se livrent dans le monde. À très bientôt.